Eh bien, maintenant, nous entendrons le texte qui sera lu dans les Juges 4, lu par Elisabeth.
Alors, tout le chapitre, Juges 4. Après la mort d'Éhoud, les Israéliens firent de nouveau ce qui déplaît au Seigneur. Le Seigneur les livra à Yabin, un roi cananéen qui résidait dans la ville de Hazor. Le chef de son armée était Sisra, qui habitait à Rochet Goïm. Yabin possédait 900 chars de fer et il opprima durement les Israélites pendant 20 ans. Alors ceux-ci appelèrent le Seigneur au secours. À cette époque, Déborah, femme de Lapidote, qui était prophétesse, rendait la justice en Israël. Elle siégeait sous un palmier, appelé ensuite palmier de Déborah, entre Rama et Bethel, dans la région montagneuse d'Éphraïm. C'est là que les Israélites venaient la consulter. Un jour, Déborah convoqua Barak, fils d'Abinoam, de Kedesh, dans le territoire de Nephtali. Elle lui dit, « Voici ce que le Seigneur Dieu d'Israël t'ordonne. » Va recruter 10 000 hommes dans les tribus de Nephtali et de Zabulon et conduis-les sur le mont Tabor. J'inciterai Sisra, chef de l'armée de Yabin, à venir au torrent de Kishon pour t'attaquer avec ses chars et ses troupes. Je le livrerai en ton pouvoir. Barak répondit à Déborah, « Si tu viens avec moi, j'irai, mais si tu ne viens pas, je refuse de m'y rendre. » « Je t'accompagnerai donc, » déclara-t-elle. « Cependant, tu ne tireras aucune gloire de cette expédition, car c'est à une femme que le Seigneur livrera Sisra. » Déborah se rendit à Kedesh avec Barak. Celui-ci y rassembla les tribus de Nephtali et de Zabulon. 10 000 hommes décidèrent de le suivre, et Déborah elle-même partit avec lui. Près de Kedesh se trouvait Héber, le Kénite. Il s'était séparé des autres Kénites descendants de Hobab, le beau-frère de Moïse, et il avait planté sa tente à côté du chêne de Saananim. Sisra apprit que Barak, fils d'Abinam, Noam, était monté sur le Tabor. Il rassembla ses 900 chars de fer et tous ses hommes à Harochet Goïm, puis de là, ils se rendirent au torrent de Kishon. Alors Déborah dit à Barak, « En route !» C'est aujourd'hui que le Seigneur va te livrer Sisra. Le Seigneur lui-même marche devant toi. Barak descendit du mont Tabor à la tête de ses 10 000 hommes. Il se lança à l'attaque et le Seigneur mit en déroute devant lui Sisra, tous ses chars et toutes ses troupes. Sisra abandonna son char et s'enfuit à pied. Barak poursuivit les chars et l'armée ennemie jusqu'à Harochet Goïm. Les troupes de Sisra furent massacrées. Il ne resta pas un seul homme. Sisra s'enfuit en courant jusqu'à la tente de Yaël, femme de Héber le Kénite, parce que la paix régnait entre la famille de Héber et le roi Yabin de Hazor. Yaël sortit au devant de Sisra et lui dit, « Entre ici, mon général, entre chez moi, n'aie pas peur. » Il entra dans sa tente et elle le cacha sous une couverture. Il lui dit, « S'il te plaît, donne-moi un peu d'eau à boire, j'ai soif. » Elle ouvrit l'outre contenant du lait et lui donna à boire, puis elle remit la couverture sur lui. Il lui dit encore, « Reste à l'entrée de la tente, et si on vient te demander, y a-t-il quelqu'un ici ?» Tu répondras, « Non. » Sisra, épuisé de fatigue, s'endormit profondément. Yaël prit alors un marteau et un piquet de la tente, et s'approcha doucement de lui. Elle lui transperça la tête avec le piquet qui s'enfonça dans le sol. Sisra en mourut. Là-dessus, Barak, qui était à la poursuite de Sisra, arriva. Yaël sortit au devant de lui et lui dit, « Viens, je te ferai voir l'homme que tu cherches. » Il entra dans la tente et découvrit Sisra étendu mort sur le sol, la tête transpercée par le piquet de tente. Ce jour-là, Dieu permit aux Israélites de remporter la victoire sur Yabin, le roi cananéen. Ils s'acharnèrent de plus en plus contre lui et réussirent finalement à le tuer.
Alors, être plongé dans l'histoire des juges quand on est préoccupé peut-être par ses vacances, ce qu'on va faire, qu'est-ce que ce texte peut nous dire aujourd'hui? Elle suscite énormément de questions. Des questions nous avons de tout style quand on aborde la Bible. Qu'est-ce qu'elle nous dit sur le sujet d'homme, de femme? Dans les Hébreux, quand ils parlent des héros de la foi, ils vont évoquer non pas Déborah, mais Barak. Qu'est-ce qui se passe dans notre texte? C'est ce que je propose qu'on explore ce matin avec l'aide de Dieu. Est-ce que l'auteur des Hébreux, c'est misogyne, il n'aime pas les femmes? D'ailleurs, dans le Nouveau Testament, c'est écrit « Soyez des hommes ». Et puis, on a fait dire à ce texte toutes sortes de choses. Qu'est-ce que ce texte veut nous dire? Et j'aimerais qu'on pose toutes sortes de questions, des questions qui demandent une réponse. D'abord, première question, où? Vous avez peut-être remarqué, il y a énormément de géographie dans notre texte. Telle montagne, tel torrent, tel parmier, telle chaîne. Il n'y avait pas les Google Maps à l'époque. On situe dans beaucoup de détails. En réalité, on se trouve à 20 kilomètres au nord-est du lac de Galilée. Et donc, nos événements se passent au nord du pays, tandis que jusque-là, tous les conflits étaient plutôt dans le sud. Mais pourquoi ces détails sont mentionnés? À quoi ça peut servir? Mais quand on parle d'où, on peut se poser la question plutôt, où sont les hommes? Est-ce que l'enseignement de notre passage, c'est que quand les femmes ne sont plus d'accord d'être des serpillères, l'homme devient une lavette? On entend des fois ces explications. C'est-à-dire que l'homme démissionne, va demander à ta mère, ou quand il y a de ces appels qui dérangent, « Attendez, je vais chercher ma femme. » Est-ce que c'est là le style de Barak? Ou est-ce que, comme se posent les Américains en ce moment, Barak est l'homme de la situation? Ça, c'est pour où? Et maintenant, qui? Qui est le personnage central de notre histoire? Dans le passage précédent, c'est clair, c'est Ehud. Dans ce qui suit, c'est clair, c'est Gédéon. Mais dans notre passage, est-ce que c'est Barak? Est-ce que c'est Déborah? Est-ce que c'est Yaël? C'est qui? Il faut reconnaître que dans l'Ancien Testament, que c'est une femme qui dirige les événements, c'est vraiment peu habituel. Et ici, nous en avons deux. Il y a Déborah. D'ailleurs, elle est la seule femme parmi les juges en Israël. Les gens viennent de très loin pour la consulter sous son palmier. Donc, parce qu'elle habite à 80 kilomètres plus au sud, on a l'impression que voilà une personne qu'on désire entendre, un personnage sage, mûr, spirituel, à mettre à côté d'un Ehud, d'un Jephté, d'un Samson. C'est tout le contraire. Mais dans notre même passage, on a Yaël. Quel contraste! On a l'impression qu'à côté d'elle, la dame de fer est plutôt douce, sympathique. Sa victime, Sisera, entre dans la confiance parce qu'il est bénéficiaire d'un accord de paix et venu se réfugier sous son toit, il en avait droit d'être dans la confiance. Trahison. Maintenant, quoi? Qu'est-ce qui se passe ici dans ce passage? Alors, on lit au premier verset que les Israélites recommencèrent à faire ce que l'Éternel considère comme mal. Alors, de quoi s'agit-il? C'est le refrain dans tous les juges, 3-7, dans l'explication, ils oublièrent l'Éternel leur Dieu et rendirent un culte aux dieux Baal et Asherah. Ils sont allés courir après d'autres dieux. D'ailleurs, dans le chapitre qui suit, notre chapitre 5-8, c'est précisé, le peuple s'est choisi d'autres dieux. Ils ont été séduits par Baal, c'était le dieu des orages, de la pluie, et la divinité Asherah, elle, déesse de la guerre et de la fertilité. Donc, quand le texte dit ils font ce que l'Éternel considère comme étant mal, ça veut dire que c'est l'équivalent spirituel de l'adultère physique. Et dans les deux cas, ce sont les enfants qui sont sacrifiés, littéralement dans le culte des Baals d'ailleurs. Donc devant cela, Dieu ne va pas rester indifférent. Et il entend, verset 3, leur cri. Mais, entre nous, il faut le dire, c'est la méthode utilisée qui nous fait problème. Ici, comme ailleurs, dans l'ensemble du livre des juges. Qu'est-ce qui se passe ici? Le quoi? Et maintenant, le comment? Le piqué enfoncé dans la tente. On ne peut pas échapper à cette question. Le chapitre 3, c'était l'épée à deux tranchants enfoncée dans le ventre. Les parallèles sont évidents. Dans les deux cas, tromperie, violence, personne d'autre présent pour constater les faits. Mais c'est le moment décisif de la délivrance. Violence. Comment se réconcilier à de telles méthodes employées par l'Éternel? Il y a beaucoup de pourquoi qui se posent ici. Où sont les hommes? Qui est le personnage central de notre histoire? Qu'est-ce qui se passe ici? Et comment Dieu peut utiliser de telles méthode. Alors, je propose de reprendre nos questions. Où sont les hommes? Si tu m'accompagnes, j'irai, dit Barak. Mais si tu ne viens pas avec moi, j'irai pas. On peut dire que son manque d'enthousiasme est compréhensible devant les 800 chars bardé de fer de l'adversaire. On entend, il y a des séminaires à ce sujet, que les hommes doivent être entreprenants, combattants, virils, musclés. Alors Barak, lui, c'est faible, lâche. Ou est-ce que c'est un homme de valeur qui reconnaît de se lancer dans n'importe quel projet sans Dieu, sans rester en ligne par sa porte-parole, ici Déborah, est voué à l'échec d'avance. Et maintenant pour le qui est le personnage central? Enfin, Barak voulait la compagnie de qui? Il voulait que Déborah vienne lui tenir la main? Ou est-ce qu'il voulait qu'il restait sous la bonne main de Dieu, grâce à celle qui parlait en son nom, pour obéir à ses instructions? Faiblesse ou foi? Personnellement, moi, je vote pour Barak. Mais, si vous n'êtes pas d'accord, je vous invite à suivre avec moi la structure du passage. Si vous n'avez pas vos Bibles sous la main, je vous explique. Le passage est construit comme un sandwich. C'est comme beaucoup de poésie dans la Bible. Il y a les deux tranches de pain. Ça, c'est moins important. Puis, il y a le beurre sur les deux côtés. Puis, il a la salade verte en bas, les tomates en haut. Et puis, il y a la partie vraiment intéressante, le fromage, la viande au milieu. Dans ce passage, c'est exactement ce qu'on trouve. Le pain à l'extérieur, le passage commence et termine avec Yabin, l'oppresseur. C'est pas lui le plus important. Ensuite, qui est-ce que nous trouvons? Alors, nous découvrons Déborah, la prophétesse, 4 à 9, et en parallèle, le beurre dans la partie dessous, c'est Yaël, femme d'Héber. C'est pas elle, les personnages principaux de notre texte, au risque de décevoir nos sœurs. Et puis, on arrive à la partie salade. Il y a Barak, 10 à 13, qui monte. Et puis, il y a Barak, 14b à 16, qui descend. Qui remporte la victoire. Mais ce n'est pas lui le personnage central de notre texte, au risque de décevoir nos frères. Le centre, ça laisse qui? Tout au centre, verset 14a, nous lisons ceci. C'est aujourd'hui que l'Éternel te donnera la victoire. C'est Dieu qui est au centre. Le chef de l'orchestre, le juge dans le livre des juges, c'est Dieu. C'est lui qui, verset Dieu, a livré les Israélites pour leur permettre de goûter les fruits amers de leur choix, de leur adultère. Mais c'est Dieu qui ne restera pas, verset 3, indifférent à leur cri de détresse. C'est Dieu, verset 4, qui a mis sa porte-parole en place, une femme, Déborah, qui transmet ce qu'il dit et ce qu'il va faire. C'est Dieu, verset 9, qui livra Sisera. Israël, depuis 20 ans, était incapable de faire quoi que ce soit. C'est Dieu qui remporte la victoire dans le combat, comme on a entendu au verset 14. Et à la fin du chapitre, verset 23, c'est Dieu qui a humilié Yabin. L'autorité, lui, ce roi cananéen, qui, dans les coulisses, orchestrait l'oppression des Israélites. Tout comme un autre adversaire qu'on trouve tout au début, tout à la fin de l'histoire, qui, lui aussi, sera humilié pour, à la fin, être éliminé. Par Dieu, c'est lui qui est le centre. Ça, c'est pour le qui. Et maintenant, pour le quoi. Qu'est-ce qui se passe ici? Le clou de l'histoire, c'est que l'instrument de la victoire sur l'oppresseur, celui qui représente la divinité guerrière, c'est une femme avec un piquet. 900 chars bardés de fer, une femme, un piquet. Et puis, celui qui suivait le dieu des orages, Sisera, lui, il sera noyé, on va le voir, à cause d'un un orage, lui qui adorait le dieu de l'orage. C'est comme si notre auteur disait d'avance, mais c'est ni par puissance, ni par force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel. Ça nous amène au comment. Quelles sont les méthodes employées? Et c'est là où on est mal à l'aise. Oh, pas tout de suite, que ce chef de guerre soit obligé de descendre de son homère, dernier cri, pour prendre la fuite à pied, à cause des torrents de pluie qui tombaient de telle montagne par tel torrent. Ça va pour nous. Que sa maman soit à la maison, inquiète, parce qu'il tarde à rentrer, c'est le chapitre 5 qui nous le raconte. Où est-ce que Sisera, elle s'inquiète? Ça nous dérange pas trop non plus. Mais c'est la méthode du piquet qui nous laisse perplexes. Comment résoudre ça à ce que nous savons de notre Dieu? J'aimerais rappeler que Sisera, c'est pas monsieur propre. Au verset 3, c'est dit que depuis 20 ans, ils sont opprimés durement. Et ce durement cache des faits qui sont révélés dans le chapitre suivant. Il tarde à rentrer. Alors son fans club, qui l'attend, donne l'explication à sa maman, mais laisse-leur le temps de violer quelques filles. Parce que il faut qu'ils rendent un culte à leur Dieu que eux, ils pensaient lui donner la victoire. Est-ce que notre difficulté sur ces événements, c'est en partie parce qu'on n'a jamais été opprimé de la sorte, humilié de la sorte. Parce que c'est clair, notre sympathie ne va pas vers le tueur de Toulouse qui tire sur des petits-enfants juifs, ni sur l'extrémiste taliban qui tire à bout portant sur Malala Yousafzai, 14 ans. Quand la méthode nous laisse perplexes, il y a des questions qu'on doit garder en suspens. Mais, avouons-le, nous aspirons que la justice soit exercée. Et c'est Dieu qui est le juge. Alors, j'aimerais conclure en revenant encore à nos questions. Où sont les hommes? Je dirais que c'est pas là la question. Et l'exhortation dans le Nouveau Testament, soyez des hommes, n'est pas une invitation de changer de sexe, mais d'être courageux, énergique, ferme, zélé, dans notre domaine de service, homme ou femme. Qui est le personnage au centre? Notre préoccupation première n'est pas si c'est Barack pour les présidentielles, ou Déborah, ou la dame de fer qui remporte le prix, mais La question, c'est est-ce que Dieu est vraiment au centre? Notre texte invite à nous poser cette question. Car les dieux qui nous environnent, qui s'appellent Baal, Asherah, domination, débauche, ou tout autre couple cananien que vous aimerez évoquer, eux, ils ne se privent pas de venir combler le vacuum quand nous n'avons plus Dieu au centre. Et très vite, ils deviennent des maîtres durs, implacables dans nos vies. Quoi? Dieu a ses méthodes surprenantes pour mettre à terme l'oppression, pour sauver. Il faut dire qu'il n'est pas que douceur, mou, passif, une lavette. J'ai lu l'histoire du président des États-Unis, Teddy Roosevelt. Il était à Harvard avant d'être président et il donnait l'école de dimanche. Un dimanche est venu un des enfants avec l'œil en beurre. Il lui a demandé, mais qu'est-ce qui t'arrive? Et il a dit, ah, mais il y a un des grands qui se moquait de ma sœur et j'essaie de le cogner. Et Roosevelt lui a donné un dollar et lui a dit, tu as bien fait. Et on lui a enlevé par la suite la fonction de moniteur d'école de dimanche. Mais Déborah va dire qu'il est aussi l'éternel des armées. Et le comment? Le comment, des fois, on doit laisser nos questions en suspens jusqu'à ce qu'il y ait plus de lumière. Mais c'est à méditer. Un homme appelé pour une mission précise, être le sauveur de son peuple. Un homme qui restera dans une dépendance totale et qui n'agira pas selon son propre autorité. Un homme qui ne cherche pas sa propre gloire. Et quelqu'un qui remporte la victoire simplement grâce à l'obéissance. Mais le pourquoi reste. Pourquoi il fallait un acte de violence, qu'il s'agit d'un piquet ou d'une croix pour éliminer le mal, pour ne pas dire le malin. Le juge a jugé bon qu'il devait être ainsi, et c'est lui le juge. Et quand on devient de plus en plus conscient de l'oppression violente qui est exercée sur, non pas que les Israélites, mais sur l'humanité dans son ensemble, manifestée dans des vies abîmées, piétinées, abusées, finalement la défaite de l'ennemi, malgré la méthode utilisée, n'empêche en rien notre reconnaissance profonde. Sans doute, il y a pas mal de questions qui restent. Le chapitre suivant donne d'autres éléments, mais si nous mettons Dieu au centre, je crois que nos questions secondaires trouvent leur juste place.